Le tyran en boucle d'oreille. Un autre événement contribua à renforcer la pente philosophique de mon âme enfantine. Quelques années plus tard, en 1971, nous déménageâmes à Gaillard, en Haute-Savoie, charmante petite ville tranquille au pied du Salève. « Est-ce que chez toi tu peux avoir des bonbons ou de l'argent sans que tes parents s'en aperçoivent ?» La fillette qui me demandait cela avec autorité, en me jaugeant d'un regard perçant, semblait ne douter de rien. J'appris vite à la connaître. À l'école maternelle, Frédégonde, appelons-la ainsi, constituait une sorte de prototype de mutant très spécial. Profondément perturbée, elle réussissait à être, à 4 ans et demi, voleuse, menteuse, vicieuse et manipulatrice avec un art que l'on attribue spontanément à des adultes consommés dans la politique et nourri de la lecture de Machiavel. Comme fasciné par un serpent, je lui répondis, la gorge serrée, « Des bonbons !»« Bien, tu m'amèneras un bonbon chaque jour, sinon... » Je réalisai vite alors qu'elle disposait de tout un réseau enfantin qui la fournissait en friandises et en piécettes, et qu'elle terrorisait ainsi quasiment toute la classe. Les bambins qui avaient l'heure de lui déplaire était soumis par elle à des châtiments humiliants et indécents, même les garçons, voués à des déculottages, avalages de vers de terre et autres sévices, où son imagination remarquable se donnait libre cours. Un beau jour de printemps, je transportais son bonbon quotidien dans la poche de ma jaquette orange tricotée avec amour par ma mère. Or, je n'avais pas remarqué que la poche du gilet était trouée. Quand vint le moment du paiement de mon impôt, je constatai avec horreur que le bonbon n'était plus là. Ferme sur la discipline et sourde à mes excuses, Frédégonde entreprit aussitôt de me sanctionner. Elle décréta que je serais soumise à tel sévice de son choix. Elle avait à peine commencé à contribuer à ma pénitence publique que les larmes survinrent dans mes yeux horrifiés. D'un œil expert, elle jaugea le degré de mon stress, estima rapidement les risques d'être découverte si je craquais, et interrompit le châtiment par un « bon, ça suffit » péremptoire. Quel climat! Lors des récréations, on pouvait voir les enfants en état de choc, errant l'âme en peine, sans oser se plaindre d'elles, même entre eux. Quant aux maîtresses, une image me reste de ces adultes prétendument tutélaires. Leurs longues jambes terminées par une mini-jupe se baladaient dans la cour, très au-dessus des contingences enfantines, et elle bavardait, insouciante, dans un monde qui n'était certainement pas le nôtre. Je me rappelle qu'un garçon osa résister un jour à Frédégonde et refuser le racket. Elle accourut, courroucée, vers la maîtresse, en accusant le gamin audacieux de lui avoir craché dessus et de l'avoir insulté. Je ne saurais dire si le garçon avait poussé la témérité jusque-là ou pas. En tout cas, sans chercher à savoir les dessous de l'affaire, la jeune femme s'empressa de punir le pseudo-coupable. L'enfant sanctionné pleurait de rage impuissante et d'indignation. Les autres bambins faisaient cercle autour du groupe, les yeux exorbités, muets et pétrifiés, perdant leurs illusions sur la justice et l'omniscience des adultes. Le racket dura peut-être 2 ans, durée de ma cohabitation scolaire avec le monstre à boucle d'oreille. Je ne peux pourtant le certifier, n'ayant pas alors la notion du temps, et mes parents, par définition, ne s'étant aperçus de rien. Tous les soirs, tant qu'il dura en tout cas, je pleurais au coucher à l'idée de retourner à l'école le lendemain. Ma mère m'en demanda un jour la raison. Je lui répondis par un demi-aveu. « Une fille m'embête !» Elle haussa les épaules en répliquant « Ce ne sont que des histoires d'enfants !» Je compris qu'elle estimait que j'avais à résoudre mes problèmes dérisoires toute seule et qu'elle ne voulait pas savoir la vérité. Il faut reconnaître qu'une vérité sortant de la bouche d'enfant peut tellement déranger un équilibre humain, parfois acquis difficilement. Je compris alors que moi, pitchounette aux couettes, j'étais absolument seul pour gérer ma vie et que je n'avais rien à attendre des adultes, hormis le vivre, le couvert et quelques connaissances plus ou moins pratiques. Les adultes, quels qu'ils soient, tous les adultes, me sont alors apparus non comme des demi-dieux, mais comme de grands enfants qui se prennent terriblement et dérisoirement au sérieux. Sans eux toutefois, j'avais conscience que je n'avais aucune chance de survie dans ce monde si vaste et si inquiétant. Les écouter, oui, mais sans jamais perdre mon sens critique. Froidement, je calculais les risques d'une révélation explicite. Je savais que mes parents me croiraient quoi que je dise, car je ne mentais jamais. Mais une fois la chose révélée, que se passerait-il ? Probablement une confrontation à l'école. Et là, je pressentais que la chipine irait tout en bloc, chercherait à m'intimider par tous les moyens et à se venger, bien entendu. Quand on voyait ce qu'elle pouvait faire subir à des enfants qui ne lui avaient fait aucun mal, cela donnait évidemment à réfléchir. Autant être enfermé pendant des années dans la même cage qu'un fauve. Quant à l'institutrice, elle mettrait la victime et l'agresseur sur un pied d'égalité, ne donnant pas plus de poids à ma parole qu'à la sienne. Parole contre parole. Et les enfants ? Peut-être ne seraient-ils pas interrogés ? Ou bien, encore sous la crainte de représailles, ils nieraient les raquettes et c'est moi qui aurais le privilège immense de servir de bouc émissaire général de l'enseignante et de sa douce protégée, innocente amatrice de bonbons et de piécettes. Bref, l'horreur absolue. Quant à imaginer que mes parents déménageraient pour me soustraire au tyran en socket ou me changeraient d'école, il ne fallait pas rêver. L'image de mon père recevait également une sérieuse éraflure dans cette affaire. Qu'on n'oublie pas que son métier, comme il me l'expliquait avec truculence, consistait à courir après les voleurs, qu'il passait son temps à réaliser des enquêtes policières. Et voilà qu'il se révélait aveugle sur ce que vivait au quotidien sa fille unique et chérie. Voilà qu'il ne m'avait jamais prise la main dans le sac, tandis que, grimpé sur un meuble, je prélevais mon caramel quotidien dans la boîte métallique où ses semblables étaient rassemblés. Passant et repassant ces questions dans mon esprit, je percevais confusément mais avec force que ce que je vivais ainsi à petite échelle était vécu par un nombre incalculable de personnes à travers le monde. Ainsi, des êtres méchants, rusés et sans scrupules peuvent-ils en ce monde écraser la face du pauvre comme l'exprime crûment un psaume? Ainsi les faibles peuvent-ils vivre dans la terreur, sous des tyrans dénués de sentiments humains, ou encore être entravés de tous côtés par des régimes délirants dont ils ne voient pas la fin? On pourrait douter qu'une fillette perçoive ceci, sans avoir étudié l'histoire ou la politique, mais je me rappelle mes impressions comme si c'était hier, tant elles étaient violentes. Les détails des situations, des conditions de temps et de lieu étaient secondaires tout compte fait. Sans doute je ne disposais pas de mon vocabulaire actuel pour analyser la situation. Mais si j'ignorais par exemple le terme psychopathe, la réalité qu'il recouvrait suffisait à mes méditations. Je me demandais ce que signifiait alors la notion de protection de la Vierge Marie, puisque l'on m'avait expliqué que la médaille que je portais m'était donnée pour que Marie me protège. Et je me disais, eh bien, en supposant que ce soit vrai, qu'est-ce que j'aurais à subir si elle ne me protégeait pas ? La tête tournoyante de questions non résolues, j'étais décidé à mener ma propre enquête sur l'existence, son sens éventuel, la question du mal et de la souffrance. C'est cela qui me faisait vivre encore, la curiosité. Et aussi l'espérance que le mystère de la beauté de la création n'était pas un non-sens absurde. Si jamais il s'avérait en être ainsi, la beauté, la bonté et l'harmonie discernable dans l'univers devenaient les mensonges les plus insupportables. Quant à la Vierge Marie, à Jésus et à toute puissance intelligente qui serait au-dessus de nous, je voulais savoir ce qu'il convenait que j'en pense. L'opinion des adultes, même les plus proches, leurs pressions éventuelles, n'avaient rien à voir dans l'affaire. Seule la vérité pouvait me rassasier, quand bien même elle aurait tué toute espérance. Le temps passa sur mes questions non résolues. En 1974, nous déménageâmes enfin pour une autre ville de Haute-Savoie. J'échappais avec soulagement au cauchemar de l'école maternelle. De plus, allant sur mes 7 ans, j'intégrais le cours préparatoire de l'école primaire. Il y aurait sûrement l'occasion de découvrir bien des choses intéressantes. Notamment, le fait d'apprendre à lire allait me permettre de m'abreuver par moi-même à la source du savoir des adultes.